Bonjour à tous. Bienvenue ce matin. Bienvenue pour ce culte. Je suis un peu curieux parce que j'essaie juste de repérer mes enfants qui doivent être entre la chapelle et puis la répétition en bas. Voilà, je crois qu'il y en a une qui arrive dehors. Ah non, c'est pas la mienne. Non. Alors j'espère qu'ils sont en bas. Non, ça va aller. Je l'irai voir après. Alors, bienvenue à tous vous qui êtes là, présents dans ce lieu. Bienvenue si vous nous suivez en streaming. Les enfants, eux, ils sont normalement les bienvenus là, ici aussi, mais ils doivent répéter pour dimanche prochain, la dernière répétition. Alors, s'ils veulent descendre, ça a lieu en bas. Et puis, sinon, ils auront leur groupe de toute façon tout à l'heure. Et nous nous rassemblons ensemble pour chanter, pour louer, nous nous rassemblons pour prier, écouter la parole de Dieu, pour être à son écoute et nous engager à son service. Alors on a vécu, ouais c'est bon, pas loin, on a vécu déjà une grande journée hier pour les 60 ans de l'Église, enfin on a déjà vécu beaucoup de choses puisque ça se prépare depuis longtemps, hein, mais hier il y avait déjà une grande journée et il y a encore des rendez-vous qui arrivent, on en parlera. C'est toujours un émerveillement pour moi de voir toutes les personnes impliquées dans les cultes, un peu partout, mais dans toutes les autres activités, plus ou moins régulières, et aussi justement pour ces événements en lien avec cet anniversaire. Parce que l'Église, ce n'est pas seulement le moment où on se retrouve le dimanche matin, mais c'est également les autres occasions de passer du temps, de servir, de se soutenir, de chercher la volonté et la présence de Dieu. Alors peut-être que vous débarquez un peu ce matin, ce ne sera certainement pas le même volume que les concerts de hier soir. Et peut-être que vous ne connaissez pas bien l'Église, mais peu importe. Dieu nous accueille, chacun, chacune, et se réjouit de notre présence. Il se réjouit de te voir ici et il a quelque chose à te proposer. Et si ça arrive parfois qu'on se demande pourquoi on est sur Terre, si tu te demandes pourquoi tu es sur Terre, eh ben, Philippe nous apportera quelques éléments de réponse. Et j'espère que nous pourrons tous en retenir quelque chose de personnel. Parce que Dieu veut faire grandir son Église ici, à Mérin. Ça fait 60 ans qu'il y travaille et il y a encore du boulot. Mais aussi dans toutes les nations. Et surtout, Dieu s'adresse à chacun de nous, personnellement également. Alors je vous invite à prier. Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, c'est des fois difficile de te suivre, de te faire confiance, d'avancer avec toi. Mais toi, tu es là, présent. Tu es là, agissant. Tous les jours, quelles que soient les circonstances, quelle que soit mon attitude, quel que soit l'état de mon cœur, tu es là. Et ce matin, tu nous invites à nous rassembler pour te louer, pour passer du temps ensemble, un temps avec toi. Merci pour ce temps. Et merci parce que je ne suis pas là par hasard, parce que tu te réjouis de ma présence et parce que tu as des projets pour moi. Pour chacun de nous, parce que tu as des projets pour ton Église. Et Seigneur, même si des fois on passe à côté de ta volonté, ben toi tu restes fidèle. Ton amour, ton appel, il ne s'éteigne pas, mais il se renouvelle. Alors que tu bénisses ce temps que nous voulons te consacrer, ce temps de culte, que tu viennes dans nos vies et que tu te révèles à nous. Amen. Alors ce matin, nous aurons un culte en deux temps. Le premier temps, un temps de louange et on partagera aussi la scène. Et puis un deuxième temps avec le message de Philippe qui poursuit sa série « Motivé par l'essentiel » et « Pourquoi je suis sur Terre ». Mais pour l'instant, du coup, je laisse la place à Sylvain et à toute l'équipe. Merci.
Voilà, ce matin. Oui, ce matin, on vous propose d'entrer dans ce temps de louange par le chant avec trois chants qui sont un peu autour du même thème, de la grandeur du Créateur, d'une création devant laquelle on se sent complètement minuscule, hein, que ce soit dans le temps, dans l'espace, et encore peut-être plus aujourd'hui que dans les temps bibliques, avec ce qu'on connaît. Puis c'est beaucoup de gens, peut-être la majorité, croient qu'il y a un créateur quelque part, une intelligence supérieure. Mais la Bible nous révèle autre chose, elle nous révèle un Dieu qui est le créateur et qui s'est approché de nous, et particulièrement en Jésus-Christ, dans la peau d'un être humain comme nous, qui a fréquenté les villages de Galilée, qui a rencontré des gens, et qui a fini par donner sa vie pour nous. Et c'est ce paradoxe quelque part incompréhensible, mais c'est aussi là qu'est la source du sens de notre vie.
Le ciel d'azur, les éclairs, le
Crucifié, seul, abandonné, le mépris, le rejet, la souffrance. Quand on imagine le pire de ce qui pourrait arriver à qui que ce soit, ben c'est à peu près ça. Surtout lorsqu'on comprend qu'il est celui qui règne de toute éternité et qu'il n'y a rien au-dessus de lui, que tout est sous ses pieds, et qu'il le fait pour nous sauver, et pas pour notre mérite, mais par amour pour nous. Je lis quelques versets de Romains 5. Quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien, mais Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Régulièrement, on partage ce pain, on partage ce vin ensemble, pour nous souvenir de ce repas qu'il a partagé avec ses disciples, avec ses proches. Aujourd'hui, nous sommes ses disciples, ses proches, et nous partageons ce temps de scène, ce temps de repas ensemble. Avec lui. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit : ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit la coupe après le repas et dit : cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Nous allons prier.
Notre Dieu, notre Père, nous accueillons avec une immense reconnaissance ton amour, ta grâce, ton pardon, ton accueil. Merci pour Jésus le Christ, mort et ressuscité pour nous, vivant aujourd'hui, intercédant pour nous auprès du Père. Merci pour l'Esprit répandu comme promis. Merci pour l'Église que tu bâtis et dont nous sommes une portion que tu aimes. Notre privilège est de pouvoir prendre ensemble ce matin ce pain et ce vin en nous souvenant de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre ami, de nous réjouir aussi en espérance de ce jour où avec tous les chrétiens et les chrétiennes, nous partagerons ce repas dans une joie immense. Nous attendons ce jour, nous l'espérons et nous te prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus, amen.
Alors nous passerons distribuer le pain, le vin. Nous aurons peut-être besoin de 3 personnes pour nous aider. Comme d'habitude, nous avons des petits gobelets au centre des plateaux, les gobelets roses, c'est du jus de raisin, du vin autour. Et si vous désirez communier avec la coupe, faites simplement signe et on passera vous apporter la coupe. Que durant ce temps, vous puissiez aussi chercher la présence de Dieu. Et si vous voulez prier à haute voix, vous pouvez le faire aussi. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Je vous invite encore à vous lever pour chanter un souffle nouveau. Merci Seigneur pour ta vie offerte à la croix, pour ton esprit, pour ta parole. Que tu viennes dans nos cœurs, que tu travailles nos esprits et nos êtres entiers. Que tu conduises Philippe dans ce temps de partage de ta parole, que tu le renouvelles et que tu l'inspires, et que nous puissions rester à ton écoute et que tu agisses dans nos vies. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver. Ne pas gâcher sa vie, ne gâchez pas votre vie. C'était dimanche dernier. Enfin, c'est pour toute la vie, ne pas gâcher sa vie. Mais dimanche dernier, nous avons regardé la question de nos choix, la question de nos priorités. Et nous avons relevé que dans la vie, on ne peut pas tout faire. C'est pas possible, c'est pas jouable, on peut pas l'assumer. Dans la vie, on ne peut pas tout faire. Si donc nous voulons ce qu'il y a de meilleur, il faut parfois lâcher des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas essentielles. Ce matin, nous allons nous poser des questions plus fondamentales encore. Et peut-être, Roxane, merci. Après, normalement, ça marche. Quelques questions essentielles. Pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que ma vie compte pour quelque chose? Quel est mon but? Trois questions très ouvertes sur lesquelles je vous propose de nous arrêter un petit moment ce matin. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pourquoi? Pourquoi? C'est la grande question que nous arrache en général la souffrance. Pourquoi? Pourquoi cet accident? Pourquoi cette maladie? Pourquoi tel problème durable au travail, dans notre couple, avec les enfants? Pourquoi? C'est la question du prophète Jérémie. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel si c'est pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Pourquoi? Quand vous vous posez la question « Pourquoi ?», vous vous inscrivez dans la suite, par exemple, des prophètes. Pourquoi? C'est légitime la question « Pourquoi ?». Il faut se la poser, il faut poser les choses. Pourquoi? C'était la question de Job devant la souffrance, sa souffrance, devant l'absurdité des choses. Pourquoi? Et c'était même la question de Jésus sur la croix. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Encore une fois, il y a de quoi légitimer nos pourquoi. J'ai un peu de peine avec ces chrétiens ou ces êtres humains en général, mais voilà, là on est entre nous. Hein. Ces chrétiens qui se posent jamais de questions ou qui avalent tout cru ce qu'on leur dit. Souvent, quand on est tombé dans la marmite quand on était petit, eh ben, il n'y a qu'à mettre les pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. C'est pas aussi simple que ça, la vie. Il y a de la place, il y a de l'espace pour les pourquoi. On peut poser la question du pourquoi sans être dans l'épreuve, mais juste en regardant un peu attentivement la vie autour de soi, la vie et ses absurdités, on pourrait dire, ou la finitude de la vie. Depuis un peu plus de 3 mois, ma maman est hospitalisée. Elle a été transférée dans un EMS. Truc de dingue, nickel, franchement impressionnant. Mais quand même, tu rentres dans un EMS, puis tu observes un peu, puis tu vois toutes ces vies qui, à quelque part, arrivent à leur terme, parfois dans des conditions scabreuses. Pourquoi? Alors, se poser la question pourquoi, ben, bien avant nous, bien avant moi, et de meilleure manière que moi, de nombreux philosophes l'ont fait. La question pourquoi, on se la pose quand on est adolescent, j'espère. On se la repose dans des périodes de changement et d'incertitude. On se la pose, j'espère, au fil des saisons de la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? À quoi ça sert de vivre sur terre ? L'un de mes auteurs préférés s'appelle Isaac Asimov. Il a écrit « À ce que je vois, il n'y a pas de but ». Ça fait mal, hein ? Le gars, il observe, il écrit fort bien, il se projette beaucoup, et puis il dit « À ce que je vois, il n'y a pas de but ». Je trouve Asimov génial. Puis en même temps, quand il dit des choses pareilles, ou quand il les écrit plutôt, c'est un peu tragique. En tout cas, moi, ça me fait mal. Ça me fait grincer des dents. Ça réveille des trucs à l'intérieur. Et si on le prend au pied de la lettre, à ce que je vois, il n'y a pas de but, dit Asimov, eh bien, autant en finir tout de suite. Ou autant en finir quand on a atteint ce qu'on pensait vouloir atteindre à son maximum. Ou, comme le dit l'apôtre Paul, autrement, mais quand même, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bah ouais, si tout est absurde, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'épaisseur dans la vie, franchement, je veux dire, autant s'en donner à cœur joie. Autant s'en donner à cœur joie. Au moins, Asimov, lui, n'a pas cherché des réponses qui ne tiennent pas debout. C'est un des trucs que j'apprécie chez lui. C'est qu'il ne s'invente pas des réponses qui sont intenables. Il constate un truc, mais il ne se donne pas une réponse qui ne tiendrait pas la route. Et je me dis, en le lisant lui, puis en lisant d'autres, puis en lisant l'Ecclésiaste, par exemple, l'Ecclésiaste, quel livre l'Ecclésiaste ? Je me dis que si nous oublions Dieu, si nous écartons Dieu, en fait, il n'y a pas d'alternative à ce qu'Asimov déclare. À ce que je vois, il n'y a pas de but. Si j'écarte Dieu de mon logiciel de pensée, alors je rejoins Asimov. Sérieusement. Où on va dire, regardez au fond de vous, trouvez votre but en vous-même. Ça, moi, je l'ai beaucoup entendu, je l'ai beaucoup lu, parfois même dans des ouvrages évangéliques très discutables. Regardez au fond de vous, trouvez votre but en vous-même. Franchement, si on arrivait à trouver notre but en nous-mêmes, si ça fonctionnait, on saurait tous pourquoi on vivrait sur terre. Si le but résidait en nous, on ne se poserait jamais la question, parce qu'il serait là, le but, dedans. Il suffirait de le découvrir, de chercher un peu, de tâtonner, de se questionner, puis tac, on le trouverait un jour, puis la question, elle serait résolue. Ou alors, le biologiste, certains d'entre eux en tout cas, va dire, ben en fait, le but de la vie, c'est de perpétuer l'espèce, il faut que ça continue. Et ben les plus forts vont s'en tirer. Puis les plus faibles, bonne chance. Prenez un bateau pour traverser la Méditerranée. Vendez-vous. Bonne chance les plus faibles. Mais les plus forts, vous, ça va. Vous, ça va, les plus forts, ça va marcher. Tenez bon, les plus forts. Perpétuez-vous. Quelqu'un d'autre va dire, ben, le but de la vie, ben, c'est de se faire plaisir, c'est de s'amuser, c'est de faire la fête. Le vrai matérialiste, qui ne dit pas son nom, mais le vrai matérialiste, il va dire, ce qui m'importe dans la vie, c'est de posséder plein de choses. Des jouets, des choses avec quoi je vais m'éclater, des choses qui vont en jeter. Je vais impressionner par mes choses. Un autre grand penseur de notre siècle a écrit une chanson qui s'appelle « Les choses », Jean-Jacques Goldman. J'ai pris les choses et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. Les choses. Le problème avec les choses, avec l'argent, avec les biens, c'est que personne ne peut emporter ces choses avec lui. Et nous mourrons quand même, même si on a plein de choses. Donc, moi je ne trouve pas de réponse satisfaisante chez Asimov. Je ne trouve pas de choses satisfaisantes chez les tenants de la pensée positive qui me fatiguent d'une force. Je ne trouve pas de choses complètement positives, rassurantes, cohérentes dans la science. Et je ne trouve pas de choses rassurantes, suffisamment rassurantes dans le matérialisme. Toutes ces choses-là, elles reviennent à dire, ben vous devez inventer votre objectif, les gars. Vous devez créer votre propre but dans votre vie. Vous devez, pour le dire autrement, comme certains bouquins, encore une fois, ou certains séminaires, vous devez découvrir vos rêves. Suivez-les, coûte que coûte. Ayez de l'ambition, rêvez grand, visez haut. Croyez que vous pouvez réussir, croyez en vous-même. Trouvez ce pourquoi vous êtes fait, doué, n'abandonnez jamais. Vous êtes fait pour vous réaliser. Réalisez-vous. Et en un sens, ce ne sont pas que des mauvais conseils. Et si nous les suivons, je pense même qu'ils peuvent, en tout cas pendant un temps, procurer certaines satisfactions dans la vie. Mais réussir dans la vie, connaître l'objectif de notre vie, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir énormément de succès dans la vie et pourtant ne jamais savoir pourquoi vous êtes là. C'est dingue, hein ? Vous pouvez arriver à des sommets dans la vie, dans le sport, en économie, en politique, dans les arts. Vous pouvez arriver à des sommets et ne jamais savoir vraiment pourquoi vous êtes là. L'objectif de notre vie, c'est bien plus que notre épanouissement personnel. C'est bien plus que notre propre bonheur. C'est bien plus que notre seule paix intérieure. Nous avons été faits par Dieu et pour Dieu. Ça, c'est le postulat chrétien. Nous avons été faits par Dieu et pour Dieu. Nous avons été placés sur terre pour réaliser ses objectifs, ses buts à lui. Tant que nous ne comprenons pas cela, la vie n'a aucun sens. Sans Dieu, pour la faire courte, la vie n'a aucun sens. La Bible dit, Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Donc l'être humain, les hommes et les femmes que nous sommes, vous et moi, l'être humain trouve sa raison d'être dans une relation avec son Créateur. Dieu nous a créés pour une relation. Nous avons été créés pour aimer Dieu et pour être aimés par lui. Il n'avait pas forcément besoin de nous. Il n'était pas seul, mais il nous a créés pour une relation d'amour. D'ailleurs, la Bible le dit dans des phrases très simples, où il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études en grec pour comprendre que Dieu est amour. Ça le définit. C'est lui. Il est amour. Et parce que le péché, notre péché, a cassé cette relation, Éphésiens 1, verset 4, dit qu'en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Aimés donc, choisis depuis très, très longtemps. Ma deuxième question, est-ce que ma vie compte pour quelque chose ? Le prophète Ésaïe, il a parlé du rejet du Messie et de l'apparent échec de son ministère. Et il lui fait dire ceci au Messie, « Je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Moi, je trouve intéressant que cette parole, elle soit prêtée au Messie, à Jésus qui, malgré un échec apparent, celui de la croix, a connu la plus belle des réussites et en a inauguré une pour nous, la résurrection. Mais quand même, je suis frappé de cette impression d'avoir travaillé pour rien. C'est un sentiment terrible, hein ? Trouvez pas ça ? d'avoir travaillé pour rien, d'avoir traversé une existence pour rien, à la fin, rien. Si nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre, eh bien je crois que ça sera notre sentiment à nous tous, d'avoir eu l'impression de vivre pour rien. Il me semble que la vie en général, elle se vit à trois niveaux. Alors, ce n'est pas une parole d'évangile, je ne monterai pas au bûcher pour ça, mais je vous partage juste une petite réflexion. Il me semble que la vie en général se vit à trois niveaux. Le premier niveau, le plus bas, c'est le niveau de la survie. Le niveau de la survie, c'est celui de la plupart des gens. Ils ne font qu'exister, les pauvres. Ah, c'est déjà pas mal, mais ils ne font qu'exister. Ils ne vivent pas. Ils sont dominés par leurs circonstances ou par les circonstances extérieures qui les font survivre. Alors nous, on ne traverse pas la Méditerranée. Mais on fait nos heures de travail. On ne vit peut-être que pour le week-end, ou que pour les vacances, ou que pour la retraite, si elle arrive un jour. Ça, c'est le mode survie, le premier niveau de la vie, exister. C'est déjà pas mal. Et puis, il me semble qu'il y a un deuxième niveau, un peu mieux. C'est le niveau du succès. Et je pense que c'est là où beaucoup d'entre nous nous sommes. Nous vivons bien. Nous vivons bien. Nous sommes extrêmement riches en comparaison au reste du monde. Mais nous ne sommes pas comblés. Parce qu'il faut bien plus que du succès. Il faut donc aller au troisième niveau de vie. Et il me semble que le troisième niveau de vie, c'est celui du sens. Pas celui de la survie, pas celui du succès, mais celui du sens. C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi l'orientation de ma vie? Et je crois que ce domaine-là, ce troisième niveau, celui du sens, il me semble que nous commençons à le percevoir en cherchant. En cherchant. Pas en se contentant de l'existant, mais en cherchant. En osant se poser les questions, en osant les confronter à d'autres chrétiens, mais aller voir ailleurs aussi. Lisez la philosophie, observez les autres religions, parlons-en, cherchez, cherchons. Être des chercheurs de Dieu. Ne pas nous contenter des réponses toutes faites qu'on nous sert à longueur de journée et d'année, parfois y compris dans les églises, mais cherchons, cherchons. Et puis découvrons à quel point nous comptons pour Dieu. Et puis découvrons ce que Dieu aimerait que nous manifestions de sa personne, de son œuvre dans ce monde. Tout cela donne un sens à notre vie. Si nous voulons savoir à quel point nous comptons pour Dieu, je crois qu'il faut regarder par exemple ce verset d'un psaume où le psalmiste s'adresse à Dieu et dit à Dieu: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Seigneur, tu me connais en fait, depuis très longtemps, et tu sais de quoi est tissée ma vie, de quoi sont faites mes journées. Notre vie compte tellement pour Dieu que même certains détails ont été pris en compte, avant même que nous n'existions. C'est à ce point-là que nous sommes importants pour lui. C'est à ce point-là qu'il est le premier à nous connaître et à nous aimer. Il nous a fait dans ce qui me semble être un projet d'amour. Il voit notre vie, le bien, le mal, le gris, tout ce qui se trouve dans les marges, tout ce qui est inaccompli, et pourtant, il nous aime infiniment. Et Dieu a même des plans à très long terme pour nous. Psaume 33, verset 1. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Les objectifs dont nous parlons un peu au cours de cette courte série motivée par l'essentiel ne comprennent donc pas seulement notre vie sur terre. Ils concernent aussi notre vie éternelle. Parce que les objectifs de Dieu sont éternels. D'une certaine manière, Dieu nous a placés sur cette terre avec un entraînement de ce que nous allons faire un milliard de fois mieux dans l'éternité. Dans l'éternité, ce sera infiniment mieux et accompli. Ces derniers jours, mon petit privilège perso, c'est d'avoir mon bureau en bas, puis d'entendre ce qui se passe en haut. Et ces derniers jours, le groupe Hortus, le groupe Maison Hortus, a pas mal répété ici, entre autres pour hier soir et puis je crois pour dimanche prochain. Faudra venir dimanche prochain, ça va dépoter. Bon. Et Hortus s'entraîne. Puis de temps en temps, je viens glisser une oreille ou un œil là-bas derrière, puis ils doivent reprendre des trucs, parce que ça ne marche pas du premier coup, il faut aligner un instrument, une voix, il faut reprendre les choses, ils s'entraînent. Et hier soir, c'était parfait, parce qu'ils s'étaient entraînés. Combien de millions de fois Roger Federer a dû s'entraîner au service pour placer les services qu'il a placés pendant sa carrière. Il faut de l'entraînement. Alors aujourd'hui sur Terre, c'est la séance d'échauffement, c'est l'école maternelle, c'est la répétition générale avec le grand spectacle, c'est de l'entraînement. Dieu dit qu'il a des plans et des objectifs pour notre vie. Ces plans et ces objectifs ne s'arrêtent pas à notre vie ici-bas, ils ne s'arrêtent pas à notre cœur qui cesse de battre un jour. La vie, c'est une préparation pour l'éternité. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, et elle le sera, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous comptons tellement pour Dieu qu'il veut nous garder auprès de lui pour l'éternité et nous y préparer dès maintenant. Et donc à la question de l'existence, pourquoi est-ce que je vis sur terre ? Il me semble que le postulat chrétien auquel j'adhère répond en disant « Dieu t'aime ». Il t'a créé pour t'aimer. Tu vis pour Dieu. Il n'y a pas d'autre vie valable que dans la présence, la proximité, la dépendance de Dieu. Et par rapport à la question du sens, ma vie compte-t-elle ? Dieu répond, oui, elle compte énormément ta vie. Elle compte tellement que j'ai l'intention de te garder avec moi, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Tu comptes, mon enfant, je t'aime, tu comptes. Ma dernière question. Quel est mon but ? Quel est mon but ? Pourquoi est-ce que je suis sur terre ? Dans mes lectures récentes, j'ai redécouvert, alors excusez-moi de nouveau, un grand philosophe athée. Bertrand Russell, qui dit « À moins que vous ne supposiez l'existence de Dieu, la question du sens et de l'objectif de la vie n'a pas d'intérêt. » Ben ouais. Si vous évacuez Dieu de votre schéma de pensée, alors, encore une fois, la question du sens et de l'objectif de la vie, ça n'a pas d'intérêt. Il faut changer de crèmerie, ça ne sert à rien de venir le dimanche matin. Allez plutôt faire du sport, allez au marché. S'il n'y a pas de Dieu, Si nous ne sommes nous qu'un caprice de la nature, alors notre vie ne compte pas. Mais le postulat chrétien, et celui d'autres religions aussi, hein, c'est que Dieu existe. Et que Dieu nous a créés pour une raison précise, avec des objectifs. Et la seule façon pour nous de connaître ces objectifs, c'est de nous tourner vers lui. C'est de lire sa parole, c'est de le prier, c'est de réfléchir ensemble. Nous devons parler au Créateur et lire la Bible qu'il nous a donnée pour que nous le connaissions. Au commencement, Dieu créa. Si ces mots n'avaient pas été là au début de nos Bibles, on ne discuterait même pas du sens de la vie. On ne discuterait pas de nos objectifs dans la vie. Mais tout commence avec Dieu. Tout continue avec Dieu et tout finit avec Dieu. Au commencement, Dieu créa. La Bible dit aussi, Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte ou le respect de l'Éternel. Nous trouverons le sens de la vie en apprenant à connaître Dieu. » Tout commence avec Dieu. Colossiens 1, verset 16, dit « C'est en Christ qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qui avait été fixé selon l'intention qui inspire sa décision. Au commencement, Dieu. Tout est en rapport avec Dieu. Quel est mon but dans la vie? En fin de compte, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Mais mieux vaut la peine de se la poser, surtout si on intègre l'œuvre de Dieu. Si Dieu est une donnée à part entière dans ma vie, il faut que je me pose cette question. C'est quoi mon but? Il y a peut-être là un temps pour des choses à décider, pour des choses à redécider, pour des choses à s'approprier comme tout à nouveau. Il y a peut-être des engagements à prendre, mais ça, ça vous appartient. Moi, je ne peux pas les prendre pour vous. Je pense que je ne peux même pas vous dire si c'est plutôt bien ou plutôt bof. On peut en parler, mais ça vous appartient, c'est à vous. Moi, j'ai déjà assez de choses à faire dans ma vie. Mais il y a peut-être des engagements à prendre. Apprendre à connaître Dieu au travers de sa parole. Accueillir, recevoir sa grâce, son pardon, sa vie en abondance. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté. Le pardon, la grâce de Dieu. Peut-être qu'il faut se réapproprier l'idée de cheminer avec d'autres en Église. Pas vivre sa vie chrétienne juste pour sa pomme, mais s'exposer en Église. Il y a des trucs formidables comme hier. Quelle journée, quelle journée. Puis il y a des trucs plus âpres, plus difficiles. Mais ça vaut le coup de les vivre ensemble en Église. Peut-être qu'il s'agit de s'engager comme tout à nouveau. Peut-être qu'il faut chercher la miséricorde et la justice, plus de justice, plus de miséricorde. Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu la pratiques, que tu l'aimes, la miséricorde et la justice. Alors nous sommes tous et toutes à des étapes différentes de notre parcours de vie, de notre parcours spirituel. Ça ne fait rien, ça. Il y a une bonne partie du voyage qu'on peut encore faire ensemble. Certains d'entre nous, nous sommes en recherche et nous disons « je ne suis même pas sûr de croire en Dieu ». Mais j'aimerais être suffisamment honnête avec moi pour me poser la question jusqu'au bout. Est-ce que j'y crois? Certains d'entre nous, nous sommes de tout nouveaux croyants. Bienvenue, bienvenue dans la famille. J'en suis ravi. Parce qu'avec de telles questions, vous allez prendre un bon premier départ. Certains d'entre nous, on est peut-être des hésitants. Vous dites, ben, je me considère comme étant chrétien, chrétienne, mais franchement, ils ne sont pas très proches de Dieu. Et honnêtement, J'ai vraiment vécu jusqu'ici juste pour ma propre pomme, pour mes propres objectifs, pas pour Dieu. De telles matinées, elles vous sont proposées pour vous permettre de rentrer à la maison, de retrouver la connexion avec Dieu, puis de vous engager comme tout à nouveau. C'est pour ça qu'on fait ça. Certains d'entre vous sont des croyants fervents depuis des décennies. Et vous allez encore approfondir votre relation avec Dieu et vous allez aussi en entraîner d'autres parce que ce que vous avez reçu, c'est un trésor que vous voulez partager. Alors, où que vous en soyez, écoutez ce dernier verset. Acte 10, verset 35. En toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Je termine, comme la semaine dernière, avec une proposition de prière. Je vous invite à la lire silencieusement, et puis je la lirai à haute voix, et si vous voulez vous joindre à moi, eh bien faites-le depuis là où vous êtes, priez cette prière à haute voix, mais lisez-la d'abord. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, ben après ce culte, à disposition dans la semaine, le mois qui vient, à disposition pour en parler avec vous. Lisez cette prière et puis je l'entamerai. Et si vous avez envie, joignez-vous à moi. Notre Dieu, notre Père, je réalise que sans toi, je ne serais pas en vie. Mais comme tu m'as fait, tu as un objectif pour moi. Je reconnais que je me suis concentré sur mes propres objectifs de ma vie, pas sur les tiens. Mais je veux connaître tes objectifs pour moi et consacrer du temps à mieux te connaître. Merci de m'avoir fait. Merci de m'avoir aimé, même avant que je te connaisse. Merci parce que j'ai été fait pour l'éternité. Je veux une vie pleine de sens. Je veux commencer par mieux te connaître. Et je te demande de venir dans ma vie par ton esprit pour me changer. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Pour faire suite à ce message, nous voulons ouvrir un moment de prière libre, que ce soit à haute voix, que ce soit dans votre cœur. Vous pouvez aussi rester en silence à l'écoute de la voix de Dieu, mais que vous puissiez vous sentir libre de vous exprimer, même si ce n'est pas votre habitude. Ça peut être des prières très courtes. Et après ce temps, on prendra encore un chant. Alors, je vous invite à prier.
que c'est pour cette relation que je suis là. Merci Seigneur parce que ça me touche profondément. Et ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous puisse le comprendre vraiment, que tu nous as créés parce que tu nous aimes et que c'est cette relation qui est importante pour toi. Et permets-nous, Seigneur, de chaque jour apprendre à nous rapprocher de toi, à garder les yeux fixés sur toi, comme cette lampe qui est à nos pieds, juste le pas qui est devant moi, Seigneur. J'aimerais garder mon œil, mon regard centré sur toi. Et ainsi, le sens de ma vie prendra du sens. Amen.
Ta parole est la vérité. Tout ce que tu dis s'accomplit. Tes promesses se réalisent. Tu es un Dieu vrai, un Dieu de vérité. Nous pouvons croire en toi et nous sommes dans la paix et dans la joie parce que tu nous dis « Fais confiance, je t'aime, je te conduis ». Ta vie est pleine de sens. Même parfois, lorsque les épreuves arrivent, je leur donne du sens. Je te révèle ce sens. Je te donne la vraie vie par mon amour en Jésus. Amen.
Seigneur, aide-moi à faire la part des choses entre mes objectifs, mes rêves, mes buts et tes objectifs à toi, tes rêves pour ma vie, tes buts pour ma vie. Et ça ne veut pas dire que les miens ne sont pas valables, mais aide-moi à me nourrir des tiens, de cet amour que tu as pour moi, de cette vie que tu me donnes, pour que mes rêves, mes buts deviennent les tiens. Amen.
Secret en ta présence, je veux.
Alors, on arrive au bout de ce culte. Il y a encore quelques annonces que je vais faire. Si je dis mal certaines choses, je vous laisse, ou je me trompe pour les heures, je vous laisse me reprendre. Pour commencer cette semaine, mardi 19 à 20h15, rencontre de prière communautaire. Mercredi soir, le CTT, le groupe de jeunes, comme d'habitude. Et le KT, pas cette semaine.
Non,
d'accord. Un peu plus tard, la journée œcuménique du 30 septembre. Alors, on a peut-être le papillon, voilà. Ça fait un moment qu'on en parle. On arrive bientôt au bout des inscriptions. Donc, pensez à le faire. C'est demain le dernier délai. Et il reste encore de la place. Donc, Philippe nous encourage à y participer. Vous êtes tous les bienvenus. Pour un peu plus tard, les annonces pour les vacances d'octobre, il y a la grande semaine qui a lieu ici dans la chapelle et puis dans l'église, dans la chapelle un peu autour, avec des animations créatives, etc. Pour les enfants dès 7 ans, c'est de 8-9 heures, je ne sais plus exactement pour les horaires, le matin jusqu'en fin d'après-midi. Et les inscriptions, c'est sur kidsgenève.com. Voilà, ça vaut la peine pour les enfants. Et puis, sinon, pour la suite des événements en lien avec le 60e, il y a plusieurs choses à rappeler qui sont importantes. Il y aura l'expo qui aura lieu du 25 septembre jusqu'au 1er octobre. Du 23, pardon, merci. Du 23 jusqu'au 1er octobre, et c'est tous les après-midi, portes ouvertes de 15h à 18h. Donc vous êtes tous invités à y participer pour venir visiter l'expo, mais aussi il y a besoin de personnes pour faire l'accueil. Et du coup, dans l'idéal, il faudrait deux personnes chaque après-midi pour pouvoir faire l'accueil de 15 à 18h. Il y a possibilité de découper, c'est-à-dire que si vous pouvez faire juste quelques heures, vous pouvez quand même vous inscrire pour ces quelques heures. Et pour ça, il faut voir soit Sylvie, soit Anne-Marie, soit une des feuilles qui doit encore rester au tableau derrière, dehors à l'extérieur. Pour ça, il y aura encore un vernissage qui aura lieu samedi prochain à 17h30 jusqu'à 19h30. Donc samedi, réservez votre soirée, puisque dès 17h30, il y a le vernissage. Et puis après, à 20h, dans la chapelle, excusez-moi, le temps de louange, animé par David et puis toute une équipe par là autour. Donc notez bien, c'est un événement aussi important samedi prochain. Sinon, le dimanche, pour le 60e aussi, il y aura le culte normal à 10h ici, qui sera suivi d'une partie officielle entre 11h et 11h30, toujours ici. Et puis dès 11h30, on est invité à se déplacer pour l'apéro dînatoire, l'apéro cocktail dînatoire à la salle Antoine Verchère, c'est juste sur la place du village à côté. Et pour ça, il y a encore la possibilité de s'inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et puis la journée, elle finit pas juste après l'apéro, parce qu'à 16h, il y a encore ici le concert de Gospel Spirit. On est tous invités. Donc essayez de bien avoir ça en tête, on n'a pas de projection ici. Pour l'expo, vous verrez, il y a des affiches dehors. Et puis pour le concert, voilà, essayez de retenir la date aussi. Je crois que c'est bon pour le 60e, ça joue comme ça ? Ouais. Alors, pour la fin du culte, s'il y a un besoin de prière, n'hésitez pas. Philippe a dit qu'il était à disposition aussi pendant la semaine. Mais si, là, à la fin du culte, vous voulez passer devant, il y aura quelqu'un qui est aussi à disposition si vous avez besoin de prière ou de partager quelque chose. N'oubliez pas, comme chaque dimanche, on le rappelle, l'Église vit des dons. Et c'est aussi grâce à ça qu'on vit, par exemple, le 60e, toutes ces activités. Donc, si jamais, il y a la petite pochette à l'extérieur, il y a Twint, il y a les versements sur le compte postal, etc. Et puis, encore pour finir, n'oubliez pas les cafés à la fin. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, vous pouvez rester et profiter de ce temps encore. Voilà. Alors, oui.
Juste pour la journée œcuménique, hein, voilà, Philippe nous en a beaucoup parlé, mais comme si vous ne savez plus où vous inscrire, je suggère que vous puissiez simplement vous annoncer à moi ou à Philippe, et on transmettra directement à la paroisse qui collecte les inscriptions. Vers moi uniquement. Vers moi uniquement, ok, vers moi uniquement, parce que voilà, ok.
Merci. Alors pour terminer, je vous invite à vous lever. Je lis juste quelques versets de Romains 8. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que ce Dieu qui a manifesté son amour en Jésus, qui nous aime par-dessus tout, que ce Dieu qu'il nous accompagne tout au long de cette journée, de ces journées à venir, et que nous puissions avancer confiants, remplis de cette assurance. Alors bon dimanche à chacun.